les par actualités. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Saye au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités en ce 10 novembre 2016. Alors aujourd'hui les titres, l'annonce de la construction d'un ascenseur à la station Jean Drapeau fait grincer bien des dents. Le très beau geste d'un chauffeur de la STM. Plus de soins dans le Bas-Saint-Laurent pour des personnes atteintes de sclérose en plaques. On ira visiter ensemble le centre d'activité de jour multiclientèle de Roberval. Il y aura une lettre ouverte à nos ministres provinciaux aux fédéraux de la santé. Et puis le guide Paris accessible est en ligne. Deux entrevues aujourd'hui. Cynthia Hamel-Gamache est la doyenne du programme pour enfants amputés, les vainqueurs de l'association Les Amputés de Guerre au sujet de la campagne de remerciement de l'association. Et puis aussi Doriane Keller, agent de communication pour les Compagnons de Montréal au sujet de la sortie du livre Interligne. Alors les groupes d'usagers du transport en commun et de défense des personnes handicapées déplorent l'absence de Longueuil Université de Sherbrooke à la liste des stations qui seront prochainement dotées d'ascenseurs. Liste dévoilée par la Société des transports de Montréal en octobre. L'annonce de la construction d'un ascenseur à la station Jean Drapeau qui accueille annuellement 1,5 million d'usagers comparativement aux 7,5 millions à Longueuil ajoute à l'incompréhension, d'autant plus que ce sera l'unique station de la ligne jaune avec un équipement. En effet, l'ascenseur de la station Berry-UQAM n'atteint pas la ligne reliant la rive sud à Montréal. C'est complètement ridicule de construire un ascenseur à Jean Drapeau sans le relier ailleurs sur la rive sud, estime le porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la rive sud, l'ATCRS, Axel Fournier. La STM devrait prévoir une connexion avec le reste du réseau et cela passe par l'accessibilité des stations Longueuil Université de Sherbrooke et Berry-UQAM. En plus, les besoins sont beaucoup moindres à Jean Drapeau. L'Association des usagers du transport adapté de Longueuil, l'OTAL, abonde dans le même sens. C'est très particulier comme situation, ça sort de nulle part, c'est un non-sens, lance la directrice Dominique Falardi. À la STM, on précise que le choix des 14 stations ajoutées au plan Accessibilité Métro 2022 s'est fait notamment en fonction du degré de complexité d'intégration des ascenseurs et de l'équilibre pour l'accessibilité sur l'ensemble du réseau. Ces choix tiennent aussi compte des projets de maintien des actifs envisagés. Un chauffeur de la Société de transport de Montréal, la STM, a posé un geste comme on en voit peu souvent dans un autobus du secteur Pointe-aux-Trembles mercredi matin vers 10h15. Rémi, un témoin des événements qui a filmé la scène, a raconté toute l'histoire en entrevue à tvanouvelle.ca. Le chauffeur qui travaille sur la ligne 86 a d'abord embarqué un homme non-voyant à la hauteur de la 100e avenue dans l'extrême est de Pointe-aux-Trembles. Selon Rémi, la personne non-voyante semblait avoir du mal à s'exprimer et à se déplacer. Et tout au long du trajet, l'homme a été poussé par des jeunes, bardassé. Ce n'était pas facile pour le monsieur, a raconté le témoin. Une fois l'homme arrivé à sa destination, au CLSC de Pointe-aux-Trembles, le chauffeur d'autobus a stationné son véhicule rempli d'usagers. Il est ensuite sorti pour aider la personne non-voyante à traverser la rue Notre-Dame, fort achalandée à ce moment. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, peut-être 2 ou 3 minutes. Moi, j'ai filmé, car je trouvais que c'était un geste extraordinaire, ajoute Rémi. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents et qui chialaient. Plusieurs des passagers se demandaient si le chauffeur avait le droit d'agir ainsi et de laisser l'autobus stationné, sans conducteur à l'intérieur. Selon Amélie Régis, porte-parole de la STM, les chauffeurs ont le droit de sortir de leur véhicule, même si des clients se trouvent à l'intérieur. Elle indique également que les chauffeurs ont le droit d'aider une personne handicapée afin de lui faciliter la vie. Ils peuvent le faire de façon volontaire. C'est une initiative personnelle, précise la porte-parole. Et elle ajoute que la STM donne chaque année à des employés qui se sont démarqués un certificat pour avoir posé un acte méritoire. Le chauffeur, s'il est retrouvé, pourrait recevoir cette récompense. Rémi, quant à lui, a voulu filmer la scène pour souligner cette bonne action du chauffeur, surtout que souvent, les chauffeurs sont montrés du doigt pour les mauvaises raisons, conclut-il. « Je m'entretiens maintenant avec Dorian Keller. Dorian Keller, agent de communication pour les compagnons de... ou Dorian Keller, devrais-je dire certainement, agent de communication pour les compagnons de Montréal, au sujet de la sortie d'un livre qui s'appelle Interligne. C'est Dorian?
Oui, tout à fait.
C'est bon, Dorian. Alors je suis vraiment désolée d'avoir anglicisé ça bêtement, Dorian Keller. Monsieur Keller, honnêtement, je ne connais pas du tout ce livre, donc j'imagine que beaucoup de nos auditeurs sont dans le même état d'esprit que moi. Voudriez-vous nous parler de ce livre? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, Interligne? De quoi s'agit-il?
Oui, donc en fait, c'est un livre, un projet qui a été créé par notre centre d'activité de jour, donc qui vient en aide à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle en mettant en place des activités socio-communautaires. En fait, c'est l'idée de pouvoir lire entre les lignes, c'est l'idée de pouvoir se réapproprier le livre des personnes qui sont peut-être éloignées de l'objet, en fait, parce que pour des raisons de difficulté à lire ou... Donc c'est en fait des portraits que nous avons faits sur fond transparent, derrière lesquels se cachent les pensées des participants. Donc c'est un projet en fait qui a permis de contribuer à briser les clichés de la déficience intellectuelle en amenant nos participants à mieux se comprendre et le public à comprendre que malgré certaines limitations, ces personnes ont toute une vie riche, complexe, oui, d'activités culturelles et sociales.
Alors concrètement, ça ressemble à quoi alors quand on a ce livre entre les mains?
Alors c'est un livre en fait, donc somme toute d'assez classique. Oui. Par contre, une petite particularité, c'est que les portraits sont imprimés sur une feuille transparente.
D'accord.
Donc ce qui permet un petit peu d'avoir l'idée, quand on tourne la page, de rentrer un petit peu dans la tête du participant.
Ok.
Derrière le portrait, il y a des collages en fait qui ont été faits par eux-mêmes.
D'accord.
Des collages de tout ce qu'ils aiment, donc tout ce qui est leur envie, leur passion, leurs intérêts, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment faire.
Ok.
Donc ça permet un petit peu, c'est comme finalement raconter un petit peu son histoire, mais en image.
Je comprends mieux parce que là, j'avais du mal à visualiser l'objet, si je peux m'exprimer, vu que je ne l'ai pas ici entre les mains. Et c'est un projet qui est né comment, Dorian Keller?
C'est un projet en fait qui est né de notre désir d'amener nos participants et notre langue d'activité à mieux se connaître, à mieux se présenter aux autres. Comme je vous disais, on leur a fait nommer leurs goûts, leurs intérêts, les activités.
Ouais.
Pour réaliser ce livre, c'est né d'une envie de développer et de diffuser du contenu permettant de modéliser leurs capacités artistiques, rédactionnelles aussi, parce qu'il y a des citations qui ont été dites ou écrites par eux, et de favoriser du coup l'expression de soi.
Ok. Pourquoi est-ce important de travailler sur la notion identitaire, sur le « qui suis-je » ?
Alors, c'est en fait pour démontrer qu'ils sont experts de leur réalité, d'un savoir qu'ils possèdent déjà. Ils deviennent en fait, par la création de ce livre, ceux qui transmettent au lieu d'être ceux qui apprennent.
Ouais.
Donc c'est prendre conscience d'eux-mêmes, mais aussi des personnalités diversifiées de leurs collègues, de leurs amis, de leurs partenaires dans l'organisme.
Et qu'est-ce que les arts plastiques permettent à ces personnes qui ont une déficience intellectuelle?
Ça leur permet en fait de prendre place sur la scène artistique montréalaise. Chacun d'entre eux participe directement à toutes les étapes du processus de réalisation du projet. Donc en nommant leurs intérêts, leurs activités, ils ont pu choisir les images qu'ils représentent. Ça contribue en fait à développer leur plein potentiel, mettre en avant leurs forces et leur potentiel créatif.
Dites-moi, je connais mal les compagnons de Montréal. Quelle approche et quelles valeurs favorisez-vous?
Nous, en fait, on est un organisme donc, à but non lucratif. On est assez innovant, je vous dirais, sans prétention, puis on essaie d'être le plus...
Mais si, soyez prétentieux. Non, mais quand on fait des belles choses, il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui.
Merci, c'est vraiment apprécié. C'est ça, en fait, on offre donc de l'inclusion dynamique et stimulante pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique. Donc on essaie de mettre de l'avant nos valeurs d'engagement, de solidarité, de respect et favoriser surtout la promotion de l'autonomisation des personnes différentes.
Et dites-moi, votre délicieux accent, il vient du sud de la France, hein?
Oui, tout à fait, de la Provence.
De la Provence, mon Dieu. Et ça vous manque pas trop le soleil? Non, je m'excuse, je m'égare, mais c'est parce que c'est tellement ensoleillé de vous entendre parler, mon ami, et c'est très agréable. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres services que vous proposez un peu plus sérieusement, hein, pour revenir un petit peu sur l'émission et sur son actualité? C'est ça, est-ce qu'il y a d'autres services que vous proposez aux personnes qui ont une déficience intellectuelle?
Oui. Oui, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de services. En fait, je vais essayer de tous vous les résumer, puis de ne pas en oublier. Nous avons le service résidentiel, donc qui
Oui.
comprend un accompagnement, de l'intégration et un service de pôle santé, donc pour le soutien au niveau de la santé. C'est à peu près une trentaine, pardon, excusez-moi, de résidents.
D'accord.
Nous avons aussi des activités socio-communautaires, donc notre centre d'activité de jour, d'où le livre interligne est né. Le labo informatique, donc pour réduire la fracture numérique, pour que les personnes puissent un petit peu se familiariser avec les réseaux sociaux, avec comment envoyer un courriel, comment faire attention à la cyberintimidation. Puis nous avons une discothèque adaptée aussi. C'est une discothèque qui accueille à peu près 230 personnes
Ah oui.
tous les vendredis soirs. C'est uniquement des personnes vivant avec une DI ou une TSA.
Wow.
Et donc ça permet un petit peu justement de créer des liens, de renforcer les liens sociaux, de aussi favoriser les amours, favoriser l'amitié. Donc nous, on est vraiment pour... C'est une discothèque qui est uniquement pour adultes. Donc voilà, c'est pour que
Ah,
ces personnes-là puissent se retrouver.
Ah ben c'est fantastique.
Ben oui, on a aussi un service d'intégration socio-professionnelle, donc
Oui.
des formations... C'est en fait tout ce qui est inclusion au niveau du travail, familiariser ces personnes avec le milieu du travail. On embauche des personnes qui sont sur le PASS Action, donc le programme d'aide et d'accompagnement social qui permet à des personnes éloignées du marché du travail de réintégrer ou d'intégrer le marché du travail. On a aussi un service de soutien, cuisine, entretien, une distribution de comptoirs alimentaires pour les personnes démunies du quartier. Et des ressources matérielles. Enfin, on a vraiment beaucoup de. On joue un petit peu sur tous les fronts. On est un petit peu un univers à nous tout seuls.
Dorian Keller, le temps va nous manquer bientôt, mais en quelques mots, vous allez déménager bientôt, hein?
Oui, tout à fait. Oui, on déménage très très bientôt. C'est une bonne nouvelle en fait. Au début,
Ouais.
c'était une contrainte qui est devenue une opportunité dans le but de réunir nos trois résidences, parce que nous avons trois résidences,
Oui.
de nous ancrer davantage dans la communauté et un petit
D'accord.
peu de réinventer notre identité aussi. Donc développer de nouveaux espaces d'insertion, une meilleure visibilité, faire rayonner notre diversité dans un environnement
Bon.
plus sain et plus sécuritaire.
Alors vous serez où?
Alors on sera au 63-65 rue de Saint-Vallier. C'est juste
Oui.
à 2 minutes du métro Beaubien.
Ah, c'est très très bien. Et puis très 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 vite, on trouve où le livre?
Alors, il est
Interligne?
disponible à notre organisme Compagnons de Montréal, puis on va probablement, là je vous le dis en avant-première sûrement, essayer de le distribuer pour l'événement d'un œil différent qui aura lieu donc du 2 mars au 19 mars prochain à l'Écomusée du Fiermonde. Donc il
Oui.
sera aussi disponible là pendant la semaine de la déficience intellectuelle.
D'accord. Eh bien, écoutez, Dorian Keller, merci beaucoup. Et puis,
Merci à vous.
mais je vous en prie et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à découvrir Les Compagnons de Montréal et le livre Interligne.
Ben oui, compagnonsdemontréal.com.
Merci beaucoup. Bonne fin de
Merci à vous.
journée.
Bonne
Salut.
Journée, au revoir.
Les paractualités régionales maintenant, les personnes atteintes de la sclérose en plaques au Bas-Saint-Laurent auront maintenant plus de facilité à obtenir des soins en physiothérapie grâce à une entente de service intervenue entre la section Bas-Laurentienne de la Société canadienne de la sclérose en plaques et la clinique Objectif Mieux Vivre de Rimouski. Longtemps, on a pensé que les gens atteints de la sclérose en plaques ne devaient pas bouger, mais c'est le contraire. Comme ces gens ont souvent des difficultés financières dues à un ralentissement professionnel ou à une incapacité à travailler, nous avons voulu rendre les soins plus accessibles. La clinique accepte de commanditer une partie des coûts en fixant à 330 $ au lieu de 376 pour une évaluation individuelle et une session de 12 cours de groupe. La société offre 15 coupons rabais de 190 $ à même son budget d'opération, ce qui veut dire que les participants n'auront que 140 $ à payer, remboursables par les assurances collectives ou frais de santé sur le rapport d'impôt. C'est ce que précise le directeur de la section BSL, Geoffrey Moll. Le service débute avec une évaluation personnelle visant à tracer le portrait physique du patient, sa force, sa coordination, son équilibre et sa souplesse, afin de lui préparer un programme d'exercice adapté, précise les physiothérapeutes Sylvain Trudel et Marie-France Lévesque. La section Bas-Laurentienne de la sclérose en plaques compte 230 membres. Les cliniques spécialisées de Rimouski et de Rivière-du-Loup y soignent respectivement 350 et 320 personnes. L'entente est un projet pilote que les partenaires souhaitent voir renouvelé. Le sociofinancement est une avenue intéressante si l'intérêt est là, mentionne Sylvain Trudel, qui précise que sa clinique a aussi des ententes du même genre avec l'ASEC pour les personnes atteintes du cancer et avec la société Parkinson. Et puis le centre d'activité de jour multiclientèle de Robertval a présenté ses services. Ce nouveau concept est innovateur et fait la fierté des intervenants de l'endroit, mais également du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, le CIUS, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis sa mise en fonction, le centre accueille diverses clientèles qui ont des besoins particulier. Chaque personne a des besoins, c'est universel. Nous avons donc décidé de travailler sur le besoin et non pas sur le type de clientèle, en basant ainsi notre réflexion. Cela nous a enlevé le stress du mélange des clientèles, souligne M. Lapierre. Les opérations du centre d'activité de jour de Robertval ont débuté en mai. Pour Steve Lapierre, ce modèle mérite qu'on lui prête attention. Elle est la doyenne du programme pour enfants amputés Les Vainqueurs de l'association Les Amputés de Guerre. Depuis un mois, elle travaille d'arrache-pied pour l'association dans la section des communications. Elle s'appelle Cynthia Amel Gamache. Bonjour, Madame Amel Gamache.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous entendre aujourd'hui pour parler de cette campagne de remerciement de l'association Les Amputés de Guerre. Alors, en quoi consiste cette campagne de remerciement?
Mais en fait, cette campagne de remerciement-là, c'est vraiment pour remercier nos donateurs qui nous ont fait des dons pour pouvoir aider les personnes amputées au Canada. En fait, notre service principal est les plaques de plaques porte-clés qu'on connaît bien, là, qui permet aux gens de retrouver leurs clés s'ils les perdent. Donc, c'est un service à la base qui est totalement gratuit. Mais si vous décidez généreusement de donner, peu importe le montant, nous vous envoyons des étiquettes adresses à la maison pour vous dire un grand merci là, de permettre aux gens amputés à travers le Canada de pouvoir s'appareiller.
J'adore d'ailleurs recevoir ces petites étiquettes. Puis en plus, ça, pour moi, c'est comme un petit peu le temps des fêtes qui s'en vient.
Oui, ça annonce le temps des fêtes, effectivement.
Oui, c'est
ça a commencé au début du mois de novembre, ça va se continuer jusqu'à la fin du mois.
Pour inciter un peu peut-être les gens à donner, voudriez-vous nous dire combien de trousseaux de clés ont été rendus à leurs propriétaires? Parce que c'est ça l'idée, hein, c'est que ces petites plaquettes se mettent sur les trousseaux de clés et lorsqu'on perd ces clés, eh bien, voulez-vous, avec Poste Canada, vous vous arrangez pour que ces clés retournent au domicile de leurs propriétaires?
Oui.
Est-ce qu'on sait combien de trousseaux de clés à peu près par année sont remis?
Par année, c'est environ 14-15 000. Et depuis le début du service, c'est 1,5 million de trousseaux de clés qu'on a rendus à leurs propriétaires. Donc, c'est quand même un chiffre assez imposant.
Mais c'est phénoménal.
C'est un service qui marche très bien. Là. En fait, si vous voyez un trousseau de clés, comme vous l'avez dit très bien, là, à terre, vous n'avez qu'à le ramasser et le mettre dans une boîte postale de Poste Canada ou encore d'appeler au numéro là, qui est sans frais, qui est indiqué sur la plaque porte-clés. Puis nous, on va vous dire comment procéder. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est un service qui est simple, qui permet aux gens de ne pas perdre leurs clés qui marche depuis nombreuses années.
Oui. Et le thème de cette année, c'est « Où va votre argent? » Bonne question.
Oui, effectivement. Mais en fait, je suis très bien passée pour en parler parce que moi-même, j'en ai bénéficié. Mais en fait, l'argent va principalement aux gens amputés partout au Canada pour leur permettre de s'appareiller des appareils prothétiques, autant pour la vie courante que pour dans leurs activités. On aime que les gens amputés restent actifs malgré leur amputation et qu'ils ne se limitent pas à ça. Donc, une aide financière vraiment pour les membres artificiels. Les séminaires régionaux aussi qu'on fait à tous les ans. Mm-hmm. Donc, ça permet aux familles des personnes amputées et les personnes amputées de se réunir et de parler de leur amputation, de leur vécu, de comment qu'ils vivent avec ça au jour le jour, d'échanger aussi sur des trucs. Donc, c'est pas à travers ça qu'on aide les gens amputés, mais on a aussi d'autres programmes comme les mères solidaires. Dans le fond, ça permet aux familles de vraiment être jumelées ensemble, souvent avec des amputations semblables, pour pouvoir vraiment encore plus parler de leur vie quotidienne puis de s'aider entre eux. Donc, c'est comme une suite un petit peu du séminaire, mais vraiment, on jumelle les familles ensemble pour leur permettre de communiquer plus facilement.
Cynthia, si vous me le permettez, vous-même, vous disiez que vous en aviez profité. C'est parce que vous-même, c'est un quotidien que vous connaissez bien. Hein?
Effectivement, en fait, moi, je suis née avec une amputation congénitale à la jambe droite et au pied gauche. Donc, si je n'étais pas appareillée, je ne pourrais pas fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc, ça me permet de marcher le matin et
Oui.
ça. Donc, j'en ai profité aussi pour comprendre, tu sais, de la réalité d'une personne amputée. C'est sûr que moi, je le vis très bien. Je suis née avec mon amputation. J'ai appris à marcher avec des
Avec,
prothèses.
oui.
Ouais. Donc, moi, c'est sûr que je l'ai vécu très jeune, mais il y a des gens qui le vivent un petit peu plus tard dans leur vie. Donc, c'est bien de pouvoir échanger et de pouvoir parler de l'amputation avec des gens qui connaissent
Mais
ça, dans le
oui.
fond.
Et puis, apparemment, vous êtes quelqu'un de très apprécié, hein. Ça fait déjà quelques années que vous vous mobilisez vous-même. Je veux dire que vous travaillez beaucoup pour les amputés, hein,
Oui,
pour les.
effectivement.
Hein? Eh bien,
Oui, ça fait
écoutez.
plusieurs années, mais en fait, j'ai été conseillère, on appelle ça conseiller junior, c'est vraiment
Oui, c'est
les
ça.
jeunes qui aident les familles et les autres jeunes amputés. Donc, depuis que j'ai 12-13 ans, là, je fais des conférences et je vais voir d'autres familles pour les aider aussi à travers tout ça.
Bravo, Cynthia. Merci
Ben,
beaucoup
merci.
d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis, on aura l'occasion certainement de se reparler sur les ondes de Canalem.
Ben, il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir accordé du temps et une bonne journée à vous.
Merci, c'est très gentil, Cynthia. Vous aussi, au revoir. Les ministres provinciaux et le ministre fédéral de la Santé ont déjà reçu une lettre dont je vais vous lire de larges extraits, une lettre qui émane de Louise Bradley, présidente directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada, docteur Catherine Zahn, présidente et chef de la direction du Centre de toxicomanie et de la santé mentale, le docteur Patrick Smith, président et chef de la direction nationale de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et ces trois personnes-là écrivent ceci: Madame et Messieurs les ministres de la Santé, au Canada, une crise de santé mentale se dessine à l'horizon. Tandis que la stigmatisation s'atténue, les gens demandent de l'aide, mais le système surchargé et sous-financé ne parvient pas à répondre à la demande croissante. Cette année, une personne sur cinq, soit 6,7 millions de Canadiens, connaîtra un problème de santé mentale. Bon nombre demanderont à recevoir un traitement et ne tarderont pas à découvrir les listes d'attente qui s'allongent. Certaines personnes ne recevront aucun soutien tant qu'elles ne se retrouveront pas aux urgences, dans des refuges ou malheureusement dans le système de justice. Comme si cela n'était déjà pas assez troublant, le suicide est la principale cause de décès chez les jeunes. Des milliards de dollars qui sont consacrés aux soins de santé au Canada, environ 7%, sont affectés à la santé mentale. À titre de comparaison, les services de santé nationaux du Royaume-Uni consacrent plus de 13% à la santé mentale. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, l'investissement relativement petit du Canada le place en queue de peloton des pays développés. C'est pourquoi les organisations de santé mentale de premier plan au Canada demandent aux provinces, aux territoires et au gouvernement fédéral de collaborer afin de refondre un système défectueux. Nous savons comment améliorer les résultats sur le plan social et économique. Nous devons investir dans la prévention, l'accès aux interventions précoces, les psychothérapies, la santé mentale communautaire collaborative et la cybersanté mentale. Sans l'apport de nouveaux dollars, l'aide pour les maladies mentales demeurera un privilège complètement hors de portée de certaines des populations les plus vulnérables. Il est grand temps de retirer le Canada de la liste d'attente. Le vérificateur général de l'Alberta tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le AISH, ou Revenu garanti pour les personnes sévèrement handicapées, destiné aux personnes souffrantes d'un lourd handicap. Et apparemment, pour ce monsieur, Merwan Saher, il explique que c'est immensément compliqué, beaucoup trop compliqué. Ce programme AISH permet d'aider financièrement des personnes sévèrement handicapées dans la province. Chaque année, il distribue environ 1 milliard de dollars à plus de 50 000 Albertains. Merwan Saher s'est penché sur son fonctionnement entre février et août 2016. Lundi, il a rendu un rapport mettant en exergue les lacunes de ce programme. Le principal défaut provient, selon lui, de la lenteur dans l'évaluation de l'admissibilité. Merwan Saher a également constaté des incohérences dans la façon dont les règles sont appliquées. Par exemple, les demandeurs qui travaillent 30 heures par semaine se voient refuser l'accès au programme. Pourtant, les gens qui reçoivent déjà AISH ont été autorisés à travailler le même nombre d'heures. De son côté, le ministre des Services sociaux, Irfan Sabir, a déclaré qu'il donnerait suite aux recommandations du rapport. Paris édite un guide touristique pour les personnes handicapées. 28 pages pour mieux se déplacer, se restaurer et visiter la capitale française. Rédigé par la rédaction, c'est un article qui émane de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Alors, il a été édité, ce guide accessible, du moins pour l'accessibilité de la capitale française. Il a été édité pour la première fois en 2011 avec un mode d'emploi de 28 pages qui donne les clés pour arriver à Paris et s'y déplacer, pour résider et se restaurer dans des établissements adaptés et pour profiter des activités accessibles, quel que soit le handicap. Le guide propose également un exemple de parcours touristique adapté aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant le long de la Seine. Le guide est disponible en français et en anglais dans les bureaux d'accueil de l'Office et il est téléchargeable sur parisinfo.com, rubrique Paris pratique. Il vient ainsi compléter les 7 dossiers existants en ligne sur cette thématique. Alors, nouveauté 2016, des exemplaires en format A4, autrement dit, c'est le format de papier lettres en Europe, qui a cours en Europe, avec caractère agrandi, ainsi que des exemplaires en braille, sont disponibles uniquement en français à la demande au bureau d'accueil Pyramide pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. L'appui Mauricie a dévoilé ce mardi le lancement de la 2e édition du Salon des aidants et des aînés, soit le plus grand salon dédié aux proches aidants et aux aînés de la Mauricie. Cette année, il aura lieu le 13 novembre de 9 à 17 heures à l'hôtel Delta de Trois-Rivières. Voilà l'endroit idéal pour remplir son coffre à outils de trucs, d'astuces, de conseils et de références permettant d'améliorer la qualité de vie des aidants et de nos aidés. Encore cette année, le salon vous fera découvrir toute une gamme de services, d'outils et de produits disponibles en Mauricie. Ici pour améliorer la santé et faciliter le maintien à domicile des aînés, commente Adeline Bénatier, chargée de l'organisation du Salon des aidants et des aînés. Il y aura une 60aine de kiosques tenus par des entreprises et des organismes locaux couvrant une panoplie de services diversifiés. Je rappelle que ce salon aura lieu le 13 novembre de 9h à 17h à l'hôtel Delta de Trois-Rivières. Et puis le RUTA, RUTA, organise une 2e rencontre sur le transport adapté en soirée afin de permettre à ceux qui travaillent de jour d'y assister à la suite des demandes de leurs membres. Cette soirée aura lieu le mardi 15 novembre de 18h30 à 20h au 5095 9e avenue, local 103. Nous vous proposons le déroulement suivant, qui sera éventuellement modifiable, mettre en place un plan d'action et un calendrier des rencontres, répertorier les besoins, les lacunes du TA et proposer des pistes de solutions. Pour confirmer votre présence ou plus de précisions, veuillez nous contacter au 514-255-0765. 514-255-0765. Voilà ce qui conclut les paractualités du jour. Merci de les avoir suivies. Merci à mon équipe, dont Mathieu Tessier et Anne-Laure Janson. Bonne journée à vous toutes et vous tous et à lundi.